En ce 1er novembre, c'est la fête, chacun le sait, je l'espère. Non pas l'Halloween, mais la fête de tous les saints. Et oui, c'est la fête de tous les saints. C'est l'Église qui célèbre aujourd'hui cette foule innombrable des saints de tous les siècles. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et qui n'ont pas de fête au calendrier officiel de l'Église. Il y en a très peu, d'ailleurs, dans le calendrier officiel de l'Église. C'est comme un diamant. Un diamant qui aurait des milliers de facettes, puis serait immense. C'est un diamant. La Toussaint présente, en somme, le Christ sous de multiples visages. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui sont des saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont reflété dans leur vie Jésus-Christ ressuscité. Quelqu'un disait d'ailleurs, les saints ne sont pas parfaits, mais ils aiment Dieu à la folie. C'est consolant pour nous, hein? Nous qui ne sommes pas parfaits, en plus comme moi je suis loin de l'être, mais j'essaie d'aimer Dieu à la folie, de le laisser pénétrer dans mon cœur. C'est pas facile, mais c'est le seul moment de bonheur que j'ai. C'est la même chose pour vous, j'imagine. Hans-Urs von Balthasar, je le cite souvent, mais c'est un très grand théologien. On dit dans certains milieux que c'est peut-être le plus grand théologien, ou l'un des plus grands théologiens de ce siècle, qui a été nommé cardinal à la veille de sa mort. Il disait, si l'amour des saints s'est enflammé pour Dieu, c'est parce qu'il se savait aimé de façon absolue et qu'il voulait faire de leur existence une réponse à cet amour absolu. Et c'est ça la sainteté, c'est de répondre à cet amour absolu de Dieu pour nous, en se donnant totalement, en se laissant enflammer par l'Esprit-Saint. Je trouve qu'Hans-Urs Balthasar a très bien résumé la question. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Dans le Petit Larousse, souvent commence des causeries en citant le Petit Larousse qui définit le saint au sens large, essentiellement pur et souverainement parfait. Mais ça s'applique donc pas aux êtres humains, ça. Et c'est une façon d'opposer la sainteté à ce qui est profane, dans le mauvais sens du mot profane. Et qui est donc saint essentiellement pur puis souverainement parfait? Qui? Si ce n'est qu'on le trouve dans Isaïe, dans la Bible, hein? Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Vous connaissez ça? On dit ça à la messe tous les jours. C'est lui qui est le saint, le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé dans sa miséricorde et son amour. C'est lui qui est trois fois saint, 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 saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. On s'en rend pas toujours compte tellement c'est dit rapidement dans nos messes parfois, hein? Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. On ne se rend plus compte de ce qu'on dit. Quelle tristesse des fois, quel manque de respect, hein? Non seulement pour Dieu, mais aussi pour nos enfants qui grandissent et qui sont les futurs saints. Ça me tente de dédier d'ailleurs cette émission aux jeunes, oui, aux plus jeunes. Je sais qu'il y en a dans des écoles qui m'écoutent. Je les salue. J'ai reçu une carte de toute une classe hier. Ah, ça m'a bouleversé. Signé de tous ces noms de jeunes filles, une classe uniquement de jeunes filles, des jeunes adolescentes. Faut pas oublier que toute sainteté découle de la source qu'est Dieu. Ça, cherchons pas la sainteté ailleurs. Ça vient du cœur de Dieu. C'est une participation. D'ailleurs, on trouve ça dans l'un des premiers livres de la Bible, dans le Lévitique, au chapitre 19, au tout début. « Soyez saints parce que je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Et c'est à partir de cette base que tout le message du Nouveau Testament se développe. Dans un très beau texte que j'ai trouvé de Daniel Ange, il nous parle de tous les saints. Les jours saints des 1er et 2 novembre, dit-il, nous font célébrer chaque année quoi? mais le mystère même de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, et des grandes églises qui nous sont intimement unies dans leur cœur, soit de fait, comme les maronites, les melkites et tant d'autres, ou les grandes églises protestantes qui de plus en plus se rapprochent, je l'espère, de nous. Pour nous qui réduisons là si souvent l'église, vous savez, quand on parle d'église, on voit des horizons plus ou moins terribles. Et on voit ça de l'extérieur, cette église, dans sa réalité terrestre avec tous nos péchés. Mais aujourd'hui, là, on s'émerveille devant cette église. Tout ce qui est caché souvent à nos yeux, tout ce qu'on voit habituellement et qu'on critique sans cesse, moi le premier, eh bien tout à coup, là, tout ce qui est beau, tout ce qui est saint, resplendit aujourd'hui. Ce sont deux fêtes, aujourd'hui et demain, qui déchirent la nuit, le brouillard qui nous enveloppe. Ça nous fait entrevoir tout à coup l'autre côté des choses, l'autre côté des choses. Et voici que la liturgie nous permet aujourd'hui. Alors, aller à la messe, j'espère, il faut y aller. La liturgie ouvre nos yeux sur l'Église, dans sa triple dimension. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette triple dimension? C'est la triple réalité, la triple manière d'exister de l'Église. Il y a l'Église militante, nous-mêmes, en son état de combat actuel, qui sur terre chemine dans la foi. Mais c'est une Église de Pentecôte permanente, et dans notre Église, ici sur terre, il y a énormément plus de saints qu'on ne pense. Beaucoup plus qu'on pense, hein? Pas les saints dont je vous parle habituellement, qui sont extraordinaires, non, des saints. Oui, je dirais presque des saints cachés, humbles, discrets. Puis il y a l'autre église, l'église souffrante, qui est en son état d'attente et qui est au purgatoire, et qui désire, elle, dans l'espérance, de voir Dieu. C'est l'église, disons, presque de l'avenir. Puis il y a l'église triomphante, ah, elle est dans l'état de gloire, elle est au ciel. Elle règne en plénitude. Elle est dans la charité totale. C'est l'église, là, de la Pâque éternelle. Les deux premières, l'église militante, nous-mêmes sur la terre, nous militons, et l'église souffrante au purgatoire, n'ont qu'un temps. Elle s'achemine, petit à petit, vers l'église triomphante. Seule l'église triomphante va subsister éternellement. Espérance et foi passeront, hein? Combat, puis l'attente vont disparaître. Il va ne rester que la gloire, l'irradiation finale de la charité. Et l'Église glorieuse n'est pas uniquement à venir. Notre avenir existe déjà, et ce sont les anges et les saints déjà rassemblés, là, en notre nom à tous. Et comme en avant de nous, là, ils sont au cœur du Père, du Fils et de l'Esprit. Ils sont là. Et en ces deux jours, nous, l'Église en marche, bien nous regardons notre avenir à tous, le 2 novembre, vers ce temps béni d'ultime guérison par l'amour, où nous passerons sans doute tous, je l'espère, hein, oui. Mais d'abord et avant tout, aujourd'hui, le 1er novembre, c'est vers cette cité sainte vers laquelle tend notre existence à chacun. Toute l'histoire de l'humanité, toute l'explosion du cosmos, depuis le Big Bang au tout début, tout ça tend vers la sainteté et l'éternité. C'est Jean Guiton qui disait que la Terre est une fabrique, une grande fabrique de saints. Ben oui, pourquoi Dieu a-t-il créé la Terre? C'est pas pour fabriquer des saints. C'est tout. Rien d'autre. Il n'a pas d'autre but véritable. Fabriquer du bonheur, hein? C'est ça qu'il veut. De l'amour. La liturgie nous tourne vers ce qui vient, vers ce qui approche et ce qui nous attend. Et désormais, nous savons, nous allons, nous sommes orientés, nous sommes tournés vers ce grand soleil qui se lève à l'horizon. Et notre route en reçoit son sens, sa direction, sa raison d'être. En regardant les saints, pour ma part, je sais que je serai peut-être l'un d'entre eux demain, je le souhaite, je le veux. Il faut le vouloir, chacun d'entre nous, tous. C'est dans la lecture aujourd'hui aux bréviaires, c'est très beau. Saint Bernard qui dit, pour ma part, je l'avoue, je sens que leur souvenir allume en moi un violent désir, les saints. Et il ajoute, cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et ferme ambition. Il a bien raison. Saint Bernard, il y a des siècles. En regardant les saints, je sais donc ce que je vais devenir, et je vois l'humanité telle qu'elle sera demain, toute rachetée, toute glorifiée. Oui. Depuis que Dieu a déchiré les cieux pour se faire le cœur de sa création, petit bébé dans une grotte, Noël, depuis que les anges ont chanté que la gloire de Dieu était devenue la paix des hommes et vice-versa, eh bien depuis cet instant-là, toutes les barrières entre terre et ciel ont été anéanties. Le rideau de fer est démantelé. Les chiens policiers sont devenus des agneaux. Les terrains abominables sont devenus des vergers. Depuis que le ciel est descendu sur terre et qu'il y demeure en permanence, toutes les frontières sont ouvertes dans nos cœurs. Il y a libre et constant échange entre les différentes zones de l'Église. C'est l'Église qui rallie tout le monde. Et notre cœur est blessé avec l'assassinat de cet archevêque en Afrique. C'est notre frère, cet évêque noir. Notre Église abat tout, rassemble tous. Tout ce qui se vit, se fait en un point précis de l'Église, se répercute immédiatement ailleurs, et d'abord ou à l'intérieur même de l'Église, sur la terre. Mon péché, je le sais, fait baisser le niveau de sainteté de tous, et spécialement de la portion d'Église où je vis ici, en plein cœur de Montréal. Surtout si j'en suis responsable, et chacun l'est à un niveau ou l'autre. Mon péché peut freiner la marche d'un frère inconnu. Mais aussi et surtout tout acte d'amour qui jaillit un petit peu de mon cœur, j'aime si mal. Mais tout geste de vie en entraîne d'autres vers l'amour et la vie. Ce que je peux faire un peu rapproche le monde entier du Père qui nous aime tant. Tout ce qu'on peut faire ouvre davantage à l'Esprit Saint. Eh oui. Et cela hâte la venue en gloire du Fils. Simplement parce que nous sommes un seul et même corps. Mais en sens inverse, je dois une partie de mon amour à quelqu'un qui peut-être, à l'autre bout de la planète, prie et offre pour moi, et que je ne connaîtrai qu'au ciel. Et j'en profite pour remercier tous les monastères qui prient pour moi. J'en connais plusieurs. Ils me l'écrivent. Si je ne suis pas plus enfoncé dans la fange, c'est grâce à ces invisibles mains qui me soutiennent. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Les actes d'amour des saints qui vivent sur terre sont à moi, sont à chacun d'entre nous. Et Dieu me pardonne en les contemplant. Et je puis les offrir à Dieu. Voyant leur confiance, il le guérit, hein, c'est dans la Bible. Et cette libre circulation, là, on peut dire des biens spirituels, ce retentissement universel de tout ce qui se fait et se vit dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. La communion des saints. Après nous être laissés éblouir par la beauté déjà glorifiée de notre Église, nous allons être saisis par la compassion même de Dieu, par ses frères qui sont au purgatoire, qui sont en état d'attente, avant d'arriver à cette éternelle béatitude qui nous est promise au ciel. Et grâce à notre humble supplication, cette année encore, une foule va passer de l'Église de l'espérance du purgatoire à celle de l'amour au ciel, et l'an prochain, ils feront partie de ceux que nous fêterons non plus le 2, mais le 1er novembre. Alors d'année en année, comme je vous disais, bien la Toussaint englobe davantage d'amis de Dieu, oui, des amis de Dieu. Des amis de Jésus. C'est un cortège au rang de plus en plus serré. C'est une foule qui, tel un fleuve, ne cesse de s'élargir aux dimensions de l'histoire. Et un jour, comme on dit, ce sera notre tour. C'est nous qui en ferons partie. Ceux de la terre nous fêteront. Ils vont nous fêter. Souhaitons aller au ciel. Faisons des saints. Cessons d'être des mollassons. Il faut se décider, hein? Et comment notre cœur n'en éclaterait-il pas de joie, hein? T'es dans Isaïe au chapitre 60. Debout, rayonne, voici ta lumière. Sur toi se lève la gloire du Seigneur. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. À cette vie, tu seras radieuse, tout gonflé d'émotion, ton cœur. Te donne le goût de prier. Seigneur, en ce jour de la Toussaint, nous te bénissons pour tous ceux que tu as rachetés par ton sang et qui partagent ta gloire dans la vision face à face et te connaissent comme tu les as connus pendant leur pèlerinage sur la terre. Nous te bénissons pour la bienheureuse espérance qui est en nous de partager le sort de cette foule immense des saints, des esprits bienheureux et de tous ceux qui sont parvenus jusqu'au trône de ta gloire, qui te chantent sans cesse et participent à l'indicible bonheur qui est en toi, ô Trinité Sainte. Donne-nous de voir les cieux ouverts comme tu nous l'as promis, et que la gloire du monde à venir nous aide à supporter joyeusement toutes les tristesses de ce monde et à considérer toutes choses comme passagères. J'aime bien la lecture d'aujourd'hui de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3. Oh, c'est pas long, c'est trois petits versets, mais c'est très beau. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu, dit Saint Jean. Hein? Nous le sommes. Il faut donc vivre en conséquence. Et il ajoute, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. En somme, fêtez tous les saints, si regardez ceux qui possèdent déjà l'héritage de la gloire éternelle, hein, eux qui ont voulu vivre de leur grâce de fils adoptifs. Ils ont laissé l'amour, la miséricorde de Dieu notre Père vivifier chaque instant de leur vie, chaque fibre de leur cœur, et c'est là qu'est le bonheur. On le sait, hein, quand on le fait pendant 5 minutes, pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois. Combien nous sommes heureux. Il suffit de continuer à vivre ce bonheur. Hein? Et les saints contemplent la face de Dieu. Ils jouissent pleinement de cette vision. Hein? Ce sont des frères et des sœurs aînés que l'Église nous propose comme des modèles. Parce que, comme chacun d'entre nous, nous sommes des pécheurs. Mais eux, ils ont accepté de se laisser rencontrer par Jésus à travers leurs désirs, leurs faiblesses, leurs souffrances et voire même leurs détresses. Je vous ai raconté souvent les conversions de gens qui étaient de grands pécheurs et qui se sont laissés transformer par Jésus, ils l'ont rencontré. Et cette béatitude qui leur donne de partager actuellement la vie même de la Sainte Trinité, mais c'est un fruit de surabondance que le Christ leur a apporté, leur a acquis, leur a mérité. Malgré les nuits, à travers toutes sortes de purifications qui reviennent toujours, hein, et que l'amour exige pour être vrai. Eh bien, parfois, au-delà de tout espoir humain, tous les saints ont voulu se laisser brûler par l'amour. Ils ont voulu disparaître pour que Jésus soit progressivement tout en eux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est Marie, la reine de tous les saints, qui les a sans cesse ramenée à cette voie de pauvreté. C'est à la suite de la très sainte Vierge qu'ils ont appris à tout recevoir comme un don gratuit du Fils, comme elle l'a reçu dans son sein Jésus qu'elle nous a donné. C'est avec elle, Marie, que les saints vivent actuellement cachés dans le secret du Père. C'est sans cesse en pensant à ces réalités qu'on peut devenir des saints. Et à nos messes, le Gloria de la messe, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ça nous rappelle très souvent cette parole, tu es le seul saint, le seul Seigneur, le seul très haut Jésus-Christ. Et c'est donc dans le Christ Jésus que va être rénovée, sanctifiée notre pauvre nature humaine. Saint Paul l'a bien dit sous différentes formes. Un saint, quoi, c'est un chrétien. Et pour honorer les meilleurs, bien, aujourd'hui, nous sommes en fête. Et cette réalité extraordinaire de la sainteté, c'est comme le fruit de l'amour. Beaucoup plus que de la loi. Il y a des religions où les saints, c'est ceux qui observent la loi. Nous, ce n'est pas ça, c'est l'amour. Selon l'exemple du Christ, qui est l'unique source de sanctification, à la fois modèle et principe de grâce. Un saint, c'est un baptisé qui vit exemplairement, donc il observe la loi. Mais il ne l'observe pas pour l'observer, il l'observe par amour. Il vit donc de façon exemplaire, il mérite d'être proposé comme modèle idéal, le saint. Et sa vie pure, qui est en fuite de tout péché dans la mortification, car il faut se mortifier. Oui, il faut faire pénitence. Oui, il faut jeûner. Oui, il faut rester à genoux. Oui, il faut faire des sacrifices. Oui, par amour. Et tout ça permet au saint d'édifier en lui l'amour filial, le sens profond de l'action de grâce. Toujours et en tout lieu, comme disent les préfaces, je ne saurais vous le répéter assez, toujours et en tout lieu, toujours et en tout lieu. Ça sonne à la porte à 1h20 du matin, un 20 mai 1994. C'est un policier. Il entre dans votre appartement et vous dit, c'est votre fils, il est mort. On pleure, mais il faut glorifier Dieu. C'est un chant de louange au fond de notre détresse. En résumé, la sainteté consiste pour ceux qui peuvent et qui veulent. Tout le monde devrait vouloir. La sainteté consiste à aimer Jésus comme Jésus lui-même a aimé. Petite anecdote. Savez-vous que légalement, dans le martyrologe qu'on appelle le martyrologe romain, la liste des saints, le calendrier officiel de tous les saints, pas seulement les martyrs, mais on appelle ça le martyrologe romain, il y a environ 40 000 noms. Et là-dessus, dans notre missel, durant l'année, officiellement, on n'en célèbre que 181 qui sont inscrits, mais plus de la moitié d'entre eux, c'est simplement une petite mémoire qu'on fait. On les commémore brièvement. Alors, c'est moins de 100, finalement, qui sont célébrés chaque année. Je vous laisse sur des paroles de Louis Lavelle, qui avait quatre saints préférés, François d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et François de Sales. Il a écrit un livre là-dessus, quatre saints que j'ai devant moi ici, c'est très intéressant, je m'en sers de temps en temps. Voltaire, lui, disait, mon saint à moi, c'est Vincent de Paul. On peut choisir nos saints mis à la Vierge Marie, évidemment, qui est la reine des anges et des saints, et Saint Joseph, son époux, et Jean-Baptiste, dont Jésus a dit, je vous le déclare, c'est la vérité parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Étrange. Puis il y a le père Carré, que je connais bien, Paris, un dominicain, membre de l'Académie française, que j'aime beaucoup. Dans un petit livret, Sainteté miroir de Dieu, il dit, toute sainteté n'est que le reflet d'un état qui n'appartient qu'à Dieu. Et il termine à la page 83 en disant, écoutez bien ça, cette prière, prie avec moi, tout le monde, s'il vous plaît. Seigneur, faites que nos prêtres nous donnent envie de devenir des saints. Savez-vous que l'intention générale inscrite dans le prion en église, êtes-vous abonné au prion en église, le prion qui nous donne les prières de chaque jour, c'est merveilleux, même si on ne va pas à la messe tous les jours parce qu'on ne peut pas, au moins on peut s'unir par ces prières, Ça coûte presque rien. Hein. Ça coûte 100 fois rien, mon Dieu. Je pense que ça coûte 12-13 $ pour l'année. Abonnement d'un an, Québec, disons, 14,80 $. C'est rien. L'intention générale aujourd'hui, c'est pour que les enseignants dans les écoles et tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine des masses médias se sentent en devoir de former les esprits à la fraternité et à la solidarité universelle. Alors prions pour tous ces gens, Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de ce monde où tu nous as reçus en pèlerins à l'éternelle rencontre préparée dans ta maison. C'est par Jésus que nous te le demandons. Aujourd'hui, l'Église englobe donc dans une même fête tous ses enfants qui sont parvenus au ciel. Absolument tous. Il n'y en a pas qui sont omis. Mais quand elle en béatifie, c'est uniquement quelques-uns parmi la multitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et à titre de délégué, ils sont représentatifs de tous les autres du même pays, du même métier, de la même époque ou du même état de vie, quoi. Et que l'Église ose donner en exemple au monde entier et pour tous les temps. C'est Thérèse de Lisieux qui disait « Rien ne nous assure que les saints canonisés soient les plus grands. » Avez-vous déjà pensé à ça? C'est peut-être votre mère, votre père qui est l'un des plus grands saints. C'est peut-être votre fils, votre fille. Eh oui. Qui sait? Qui sera? Les saints officiellement proclamés ont déjà leur fête répartie sur l'année. On voit ça dans le martyrologe. Ce sont des 12, 15, 18, 20 livres énormes. Eh bien, ils ont leur fête, leur petite fête, leur petite commémoration, qu'on lit dans les monastères encore peut-être. Mais c'est pour tous les autres, pour tous les saints anonymes qui sont enveloppés du manteau du silence, on pourrait dire. Ceux dont nous ne connaîtrons jamais les noms sur la terre, ceux qui... totalement caché aux yeux des hommes, demeure encore dans ce grand secret du Père, les saints de nos familles. Pas un seul d'entre nous qui n'ait des saints dans sa généalogie, c'est sûr ça. Vous avez des saints, c'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, il y en a quelque part. Même ici, pour ceux qui sont arrivés il y a 300 ans ici dans ce pays, vous en avez. Qu'on le sache ou non, on peut fêter aujourd'hui tous nos ancêtres, les plus proches, les grands-parents peut-être, même nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont décédés. Moi, mon frère Louis, quel homme bon il était. Je suis sûr qu'il est au ciel. Sa femme décédée beaucoup plus tôt. Elle était si bonne, si bonne. Ils m'ont précédé dans le royaume. Est-ce que nous ne sommes pas l'enfant des larmes de nos parents, de leurs prières, de leur amour? Alors nos parents... peut-être sont-ils passés par le purgatoire, mais ils sont maintenant au ciel. Telle grâce que je reçois aujourd'hui, est-ce que c'est pas en réponse à l'amour d'une de mes grand-mères inconnues qui récitait son chapelet au soir d'une longue journée de labeur, autrefois dans les champs, parce que moi je viens de famille de cultivateurs? Cela aussi, c'est la communion des saints. Est-ce que je suis digne des saints de ma famille? Est-ce que je suis... en ligne avec eux, on peut se poser la question. Et les saints qui sont pas explicitement chrétiens, simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Jésus, mais qui n'en sont pas moins sauvés par lui, hein, les saints des peuples païens, hein, la Bible nous en donne quelques exemples. Car tous les peuples ont leurs saints. Ceux qui ont vécu effectivement ce qu'on appelle les béatitudes, hein, sans savoir la source de ces béatitudes, mais les ont vécues. Ils ont vécu l'Évangile sans pouvoir connaître le visage de Jésus dans son Église, qui est défiguré souvent par les infidélités de trop de baptisés. Il y a les frontières de l'Église qui ne coïncident pas forcément avec les murs de nos Églises. Il y a certains hors-murs, hein, qui n'ont pas pu vivre, paradoxalement, au cœur de l'Église. J'ai un frère comme ça. Dieu le sait, qui voit le cœur. Et je sais que mon frère qui a quitté l'Église est très bon. Bien meilleur, 100 fois meilleur que moi, je le sais, je le connais. C'est saint Augustin qui disait dans l'ineffable préscience de Dieu, « Beaucoup qui paraissent dehors sont dedans, et beaucoup qui paraissent dedans sont dehors. Hein? » C'est dans un texte sur le baptême, ça peut scandaliser bien du monde, c'était écrit il y a plus de 1500 ans. « Dans l'ineffable préscience de Dieu, beaucoup qui paraissent dehors sont dedans, et beaucoup qui paraissent dedans sont dehors. » Saint Augustin. C'est la fête des paumés d'aujourd'hui. Cette fête nous le révèle. La sainteté n'est pas synonyme de perfection morale. On peut être naturellement privilégié par une hérédité merveilleuse qui nous rend souriants, aimables et superbes, et d'autres, c'est par l'atavisme. Le milieu familial, aussi l'éducation, ça donne des qualités humaines multiples, des vertus naturelles. Il y a des gens comme ça qui passent pour saints, mais qui en sont bien loin. Ce sont simplement des gènes, puis des êtres déshérités par la nature, comme mon pauvre fils, au psychisme abîmé, fragile par son enfance et par toute sa jeunesse, peuvent offrir souvent à l'Esprit-Saint un beau terrain de choix, tel alcoolique là, qui, par pur amour, se prive d'un seul verre, peut faire un acte bien plus héroïque qu'un moine qui fait des prouesses ascétiques dans son monastère. Bien oui. Le plus petit verre d'eau que vous donnerez, le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le donnez. Bien oui. Et à supposer une égale fidélité foncière à la grâce, et donc, bon, une égale sanctification dans le mystère, il y a deux espèces de saints. Il y a les saints qui ont des psychismes disgraciés puis difficiles, comme mon pauvre fils. La troupe des angoissés, oh mon Dieu, qu'on en voit donc, hein. Il y a les agressifs aussi, ceux qui sont plongés dans un corps de chair, ils sont charnels. Il y a tous ceux qui portent le poids de toutes sortes de déterminismes. Il y a ceux qui ne charmeront jamais les oiseaux, ceux qui caresseront jamais le loup de Goubiot. Des gens qui viennent ici sont incapables de caresser mon chat, qui est la gentillesse même. S'il y avait des saints parmi les chats, mon chat serait un saint. Il y a ceux qui tombent et tombent encore, et ceux qui pleureront jusqu'à la fin. Pas parce qu'ils auront claqué une porte un peu vivement, mais parce qu'ils commettent encore cette faute sordide et inavouable. Ils sont désespérés, enchaînés par le péché. Il y a l'immense foule de ceux dont la sainteté ne reluira jamais ici-bas, dans leur psychisme. Ah, cette foule qui ne se lèvera qu'au dernier jour pour resplendir enfin. Ce sont les saints sans avoir le nom. À côté d'eux, il y a les saints qui ont un psychisme heureux dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, on en voit des fois, c'est merveilleux de les voir. Hein? Ils sont naturellement chastes, ils sont naturellement forts et doux. Ce sont des saints modèles, canonisés ou canonisables. Ceux dont le cœur est délivré. Ah, délivré, hein? Ceux dont le psychisme chante déjà comme on va chanter au ciel la gloire de Dieu. Et les saints admirables et qui soulèvent l'action de grâce, hein, on touche tout en les lisant leur vie, l'humanité qui est transformée par la grâce. Hein. Je vais vous en parler bientôt, je vais parler de saint Stanislas Kostka. Il y a les saints reconnus, fêtés, les grands saints qui font leur trace éclatante dans l'histoire. C'est une immense espérance de notre temps. La Toussaint, c'est la fête des jeunes d'aujourd'hui. Bien oui, je l'ai dit au début, c'est la fête des jeunes d'aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont nos futurs saints. À besoin nouveau, il faut des saints nouveaux. On ne les reconnaîtra pas, nous les vieux comme moi. On se dira, ça peut pas être un saint, c'est trop différent. Mais non, c'est nouveau. Pas trop nouveau, un peu nouveau. Dieu tient à jour l'Évangile, comme dit Daniel Ange. L'Esprit façonne de nouveaux profils, dit-il. Nous voilà entrés dans l'ère de la sainteté des paumés, peut-être. Tant de la grande misère, tant de la grande miséricorde. Les grâces qui semblaient réservées aux plus grands saints, autrefois, bien les voici déversées sur les plus petits. En voyant les jeunes tellement perturbés, si ce n'est traumatisés, on pourrait croire que tout ce qui pourrait faire des saints s'en va en lambeaux, comme une étoffe, une vieille étoffe. Puis on se dit, nous les vieux, bon, on n'aura plus de héros. On n'aura plus de saints, après, il n'y a plus de vocation, il n'y a plus rien. Plus de héros. Mais peut-être, dit Daniel Ange, beaucoup de saints. Peut-être pas des saints à donner en exemple de perfection, mais des amis de Dieu à recevoir en signe de consolation. Ah, de moins en moins, un saint ne sera un étalon de perfection. Et de plus en plus, un enfant du pardon. Des saints qu'on hésitera peut-être à canoniser, mais que Dieu aura non moins sanctifiés. Ils seront de la race du bon larron, celui qui sur la croix était un criminel, et qui se fait dire par Jésus, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » La beauté d'un saint, c'est pas la beauté d'un mannequin, comme parfois vous pourriez croire que c'est ce que je veux dire quand je vous raconte des vies de saints. La beauté d'un saint, c'est la beauté d'un visage blessé. On l'a vu hier avec l'abbé de Rancy qui est mort dans un sens comme un saint. Cet homme étrange. La sainteté se mesure à la vulnérabilité, au fond. Et de plus en plus, car voici que tout est renversé. Plus un être porte un handicap lourd comme mon fils, plus ce poids même le précipite au fond du cœur de Dieu, et j'en ai été témoin. Et ce poids même est sa gloire. Plus un être est blessé par la vie, plus il est aimé de Marie. Plus il est rejeté par les hommes, plus il est projeté de Dieu. Écoutez les émissions de Guy Lafrance, ici, à Radio Ville-Marie, le mercredi et le vendredi. Il invite des paumés, comme ça, des gens qui ont eu beaucoup de peine et qui s'en sont relevés. Oh, d'autant plus blessés, d'autant plus aimés, au fond, hein? Même s'il ne le sait pas, et c'est ainsi. Ah, tristesse infinie s'il ne le sait pas, mais bonheur sans nom s'il le sait. Sachons-le bien et disons-le autour de nous, ce message de folle espérance, qui donc va le crier dans les déserts de notre monde, atrocement sous-alimenté, privé des nourritures les plus élémentaires, privé de lait maternel. Jean-Emmanuel vient d'avoir le mot vrai. Un petit garçon, il dit, « Dieu a posé les yeux sur moi, car je suis fragile. » Car je suis fragile. Une jeune fille de 21 ans avait tourné autrement. Elle dit, « Le saint, c'est celui qui est tellement pécheur que Jésus est alors tout pour lui. » C'est étrange, mais c'est assez vrai. Hein? Pensons à Charles de Foucault. Saint Augustin. Il y a Chantal qui avait 18 ans qui disait, « En ce moment, je vis ceci, je suis infiniment plus aimée que je ne suis pécheresse. » Oui. Même pécheur, nous sommes aimés de Dieu, n'oublions pas Jésus qui quitte tout son troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Ce sont les plus malades de nos enfants qui peuvent devenir souvent les médecins des peuples. Je crois que les orphelins de notre monde peuvent devenir les révélateurs du Père. Moi, j'ai adopté un orphelin. Et ça m'a révélé l'amour du Père. C'est curieux, hein? Mais c'est comme ça. Et j'ai compris le cœur du Père en devenant père d'un orphelin. Les jeunes sont les premiers à contracter les maladies de notre fin de siècle, et on le voit. Hein? Quelle tristesse! Mais tout le mal qui traverse notre humanité les atteint de plein fouet. Ils sont trop fragiles pour en supporter le choc, et ils tombent et succombent. Et c'est le cardinal Lustiger qui disait, il y a une quinzaine d'années, dans le journal La Croix, « Nous avons affaire à des jeunes qui ont payé d'avance le prix de coups qu'ils n'ont pas mérité. Ils ont subi toutes sortes de traumatismes dont ils n'étaient pas responsables. Ce sont des victimes. Mais ce sont des victimes innocentes. Si seulement ils pouvaient savoir qu'un autre les a précédés dans ce chemin d'innocence. Dans ce chemin d'innocence bafoué, c'est Jésus. Un autre qui donne sens à cette somme gigantesque de souffrance qui hors de lui ne peut qu'écraser. J'avais déjà parlé plusieurs fois à des prisonniers dans des prisons en leur disant que je venais leur parler au nom d'un prisonnier, Jésus, condamné à mort, exécuté. Mais les jeunes ne se doutent même pas de qui est Jésus. Nous n'osons pas leur dire, nous ne savons pas comment le leur dire. Oh, pardon. Il faut le leur révéler. Vous êtes les agneaux qui portaient le péché du monde. Mais c'est pour l'ôter. Vous êtes innocents du mal, mais sauveurs du monde, à une condition. Simplement accueillir cet autre dans votre vie, accueillir Jésus. Mais comment le leur révéler? Oui, ceux que le mal va crucifier seront ceux que l'amour aura stigmatisés. La joie de Dieu, lumière, fleur de terre. Que cette fête aujourd'hui soit réveil de tout ce potentiel de sainteté qui est là, à fleur de terre, fantastique gisement. Encore si peu exploité, c'est comme une mine. Nos villes sont surpeuplées de bien plus de saints que d'assassins. On parle toujours des assassins. De même, les assassins peuvent devenir des saints, d'ailleurs. On a eu cette belle série sur Jacques Fesch. N'oublions pas que le premier canonisé par Dieu lui-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gangster crucifié aux côtés de la lumière. Il découvre son roi, son frère. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors devenons des éveilleurs de sainteté. Chez tous, chez les enfants, chez les jeunes, chez les pauvres, chez tous. Car finalement, qu'est-ce que la sainteté sinon le bonheur, le simple bonheur d'exister? Comment être heureux sans répondre, sans correspondre aux préférences puis aux rêves d'amour de Dieu, de Jésus sur moi? Comment être pleinement moi-même sans coïncider avec ce regard laser, là, oui, qui me perce et qui ne cesse de poser sur moi? Qui donc est plus heureux qu'un saint? Vous connaissez la petite Claire de Castelbajac qui osait s'écrier « J'aime tellement la vie ». Vous rendez-vous compte combien je suis heureuse? Tellement heureuse que si je mourais maintenant, je crois que j'irai au ciel tout droit. Je suis dans la béatitude jamais expérimentée jusque-là. Oh, c'est fou ce que je suis heureuse, à cause de tout et malgré tout. J'apprends par expérience qu'il y a toujours un bonheur plus profond qu'on ne croit. Un bonheur contagieux. J'ai envie de rendre tout le monde heureux. Ça doit être ça, la joie des enfants de Dieu. Elle écrit en Terre Sainte, « Je crois que j'ai été choisie par Dieu pour être la plus heureuse de ma génération. » Elle a écrit ça en 1974. Et 4 mois plus tard, elle entrait pour toujours dans la joie de Dieu. Elle avait 22 ans. Il y a des saints qui sont des jeunes. L'Église choisit aujourd'hui, comme évangile, l'hymne au bonheur, composé, joué, chanté sur une colline de Galilée au bord du lac. C'est une charte de la sainteté que ce chant, qui a 8 couplets. Son seul reflet, bonheur, bonheur, bonheur. Et qui chante? C'est celui qui est la joie même du Père, la joie des pauvres, c'est Jésus. C'est un autoportrait, au fond, qu'il fait. Il y dessine son propre visage. Qui donc, comme lui, a été pauvre, a pleuré, a été persécuté? Mais aussi, qui donc, plus que lui, a consolé, semé la paix, guéri 1000 blessures? 8 couplets. Les couleurs de l'arc-en-ciel où se réfracte l'unique lumière de la gloire. Impossible d'en vivre une sans que toutes les autres suivent. Parfois, l'une plus qu'une autre. Mais toujours toutes là, indissociables. autant les dons du Saint-Esprit. Tout le ciel, le royaume, les larmes essuyées, le festin final est déjà là, mais aussi tout ce qui fait notre vie sur terre, la pauvreté, les larmes, la persécution. Ciel et terre s'imbriquent, écrit Daniel Ange, l'un dans l'autre, et un saint, celui dont le cœur s'ouvre au ciel, devient royaume. Et le roi chez lui habite. Hymne qui a traversé les continents et les générations, qui a fasciné les peuples et les petits de tous les temps, qui coupe en deux l'histoire du monde, qui renverse toutes les valeurs humaines. Formidable révolution copernicienne, c'est un étrange cri sorti de la bouche de Jésus. Heureux, heureux les pauvres en esprit, heureux, heureux ceux qui souffrent, heureux les saints. Ô Seigneur, fais de nous des saints. Remplis-nous de ta présence. Fais que nous ne voyons les choses qu'à travers ton propre regard. Car tu es notre lumière, notre salut. Et de qui aurions-nous crainte? Ô Seigneur, tu es le rempart de ma vie. Et devant qui tremblerais-je? Je te demande une seule chose, Seigneur. Et c'est la seule que je cherche, habiter la maison, ta maison, tous les jours de ma vie, et que tu habites la mienne, tous les jours de ma vie. Oh, écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Oh, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ah, mais je suis sûr, Seigneur, que je verrai toutes tes bontés dans la terre des vivants. Oui. Je t'espère, Seigneur, je t'attends. Oui, je veux être fort et prendre courage. Je ne veux que toi, Seigneur, pour l'éternité.